everything about their way of seeing the world, because they get excited about the project, you know. And so people like to get engaged with it, and they like to be taken seriously, which, you know, just like you and I.
Dans la réflexion sociologique sur soi-même, dans la socio-analyse, quand on manie toute cette patte, il peut y avoir tout d'un coup un rire libérateur qui se fait et qui lève les pesanteurs.
Le mépris de classe, une longue histoire. Qu'est-ce qu'il signifie? Comment le saisir? Qu'est-ce qui se joue et déjoue dans ce terme, mépris de classe? Révélateur des rapports de domination, en émergent des émotions. Tel est l'angle pris à travers l'ouvrage collectif « Mépris de classe, l'exercer, le ressentir, y faire face » dirigé par Nicolas Rénaï et Pierre-Emmanuel Sorigné, paru aux éditions du Croquant. Sociologue à l'INRAE, Nicolas Rénaï revient pour nous sur la genèse de cet ouvrage qui propose de sociologiser le mépris de classe et aussi sur sa trajectoire de sociologue, son statut et sa position d'intellectuel. Seconde partie, le métier de sociologue. En tant que sociologue, Nicolas Rénaï, tu t'intéresses donc aux classes populaires, aux milieux ouvriers, aux rapports sociaux, de domination, aux territoires ruraux. Tu viens toi-même de la classe moyenne, la petite bourgeoisie, comme tu dis, et c'est au club de foot que tu rencontres tes potes, la plupart de tes potes, notamment ceux issus de milieux populaires. Tu es parti étudier à la ville, t'expliques dans les gars du coin de manière normale en fait, c'était logique que tu partes de là pour aller en ville et étudier. D'où sont partis ces questionnements qui t'ont fait revenir pour enquêter notamment tes camarades d'enfance?
Alors il y a une sociologue que j'aime beaucoup, qui est en retraite depuis un moment, qui s'appelle Francine Muel-Dreyfus, qui dans une très belle interview qui est faite par Gisèle Sapiro, je crois, sur un site en ligne que je pourrais te donner, elle raconte les premières enquêtes qu'elle effectuait avec Pierre Bourdieu dans les musées, à l'époque où Bourdieu travaillait avec son équipe sur ce qui deviendra son ouvrage sur les métiers de l'art. Donc Francine raconte à un moment donné dans ses enquêtes que, en voulant essayer d'interviewer un ouvrier dans un musée, l'ouvrier, en fait, face à sa réponse, il a complètement refusé l'interview et exprimé une logique de quant à soi, quoi. C'est-à-dire que déjà, pour lui, c'était quelque chose, donc ça se passe au début des années 70, hein. Donc c'était quelque chose de venir dans un musée en famille. Et en plus, il y avait une intellectuelle qui venait l'interviewer, donc c'était trop, quoi. Il y avait trop de poids culturel, etc. Et donc, il l'envoie bouler, quoi, en gros. Et elle dit, elle a une très belle formule, elle dit « Je me suis pris la violence sociale comme un boomerang. La violence symbolique comme un boomerang. » Et en fait, quand on a fait des études, quand on est dans les études, on ne se rend pas compte forcément du fait que ben, ceux qui n'arrivent pas à suivre, ceux qui ne font pas d'études, on représente forcément quelque chose pour eux. Et en fait, comme beaucoup de collégiens, j'ai pas très bien vécu les années collège, parce que j'étais un bon élève, timide, renfermé, etc., mais bon élève et issu de la petite bourgeoisie. Donc, par rapport à ces enfants d'ouvriers que je côtoyais dans la classe ou dans un cours de récréation, même s'il y avait le foot comme lien social, comme lien entre nous, voilà, c'était quand même. J'étais souvent, on me renvoyait la violence symbolique que je dégageais, donc évidemment de manière complètement inconsciente et non contrôlée, comme un boomerang qui me revenait dans la tête, quoi. Et donc, c'était, bon, il se trouve que je suis grand physiquement, donc c'était grand con, tu me fais pas peur avec ton judo, etc. Donc, plein de. J'étais judoka à l'époque. Donc, du coup, c'était. Voilà, c'était. Je pense que dans ma. Alors, je dis ça aujourd'hui, avec mon parcours de vie, donc c'est peut-être une relecture. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce vécu a été un moteur dans mon appétence pour la sociologie. Dans mon appétence pour les cours de Michel Pialoux, quand j'étais son élève, donc co-auteur avec Stéphane Beau, notamment du Retour sur la condition ouvrière, quand Michel Pialoux nous parlait de ses ouvriers de Sochaux Peugeot, je buvais ses paroles, quoi, parce que enfin j'avais quelqu'un qui m'expliquait, qui me permettait de comprendre pourquoi ça se passait pas toujours très bien, voire des fois très mal, avec certains copains d'un autre milieu, quoi, d'un milieu ouvrier. Et ça a été une vraie voilà. Et puis l'idée aussi de voilà, comme tu l'as dit, j'avais de manière complètement intériorisée en tête le fait que ma place n'était pas ici, pas dans l'espace rural dans lequel j'avais grandi, que j'allais faire des études comme ma grande sœur, que j'allais partir, quoi, que j'avais pas d'avenir ici, en fait. Tandis que beaucoup d'entre eux, c'était l'inverse. Eux pensaient leur avenir localement dans l'espace des possibles professionnels qu'il y avait et qui était forcément minoré au début des années 80 dans la situation de crise que connaissait la région dans laquelle j'ai grandi. Du coup, il y avait la volonté de ne pas en rester là. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est devenue scientifique, mais au départ, il y a un truc très existentiel, quoi. C'est-à-dire aller retourner sur les pas de mon enfance pour comprendre ce qui s'est passé et surtout comprendre ce milieu que je ne comprenais pas, ou que je comprenais mal à l'époque. J'avais forcément j'avais des copains avec qui ça se passait très bien, mais comme par hasard, c'était les copains qui, eux, croyaient en l'école, dont la maman les poussait dans les études, etc., et qui avaient le pied à l'étrier des études. Voilà, j'ai un très bon copain de l'époque qui est devenu aide-soignant, et un autre qui est devenu artisan, couvreur. Mais ce sont des ouvriers, des enfants d'ouvriers qui ont connu ce moment singulier de la fin des années 80, du début des années 90, qui est ce moment qu'a analysé Stéphane Beau de la politique des 80% au bac. C'est-à-dire qu'il y avait un espoir. Nous, les études, c'était aussi pour nous. Et donc, j'ai connu... Moi, je savais que les études, c'est pour moi. Mais eux, ils ont dit, c'est aussi pour nous, on y croit, quoi, on y va. Ils ont eu le bac, donc ils ont eu une réussite scolaire, mais ils n'ont pas eu une réussite dans l'enseignement supérieur. Mais néanmoins, aujourd'hui, pour ceux que je continue à fréquenter, la plupart n'ont pas eu une mobilité sociale extraordinaire. Donc le copain qui est devenu artisan, c'est une des plus fortes mobilités sociales qu'il y a eu. Mais ce ne sont pas des ouvriers comme l'étaient leurs parents. Il y a eu des rencontres, beaucoup de rencontres. Il y a eu l'ouverture culturelle, quoi. Tout ce que permet la fac, ou tout ce que permettait la fac, parce qu'aujourd'hui, la fac, il faut être diplômé. Et en fait, c'est beaucoup de copains, ils étaient pions. Ils ont commencé par un doc de psycho, ils ont tiré jusqu'au bout pendant 3 ans, après ils ont été en lettres. Voilà, ils traînaient leur guêtre à la fac, mais en fait, c'est pas tant les cours qui les intéressaient. Les cours les intéressaient, certains cours, fallait qu'il y ait le prof et du charisme, quoi, pour leur parler, pour leur dire des choses. Mais c'était beaucoup les à côté de la fac qui étaient. Et là, pour le coup, la fac, sans forcément diplômée, elle a joué son rôle de démocratisation culturelle, vraiment, à cette époque-là. Et je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Tu en as parlé avec Dreyfus un peu, mais je serais curieuse, quel est le livre qui t'a amené à la sociologie, qui t'a fait dire « Ok, bah, je veux faire ça ». En tout cas, ça va devenir ma focale.
Comme je te le disais, au départ, ça ne doit pas être un livre forcément. C'est plutôt les cours de Michel Pialoux. J'étais pas un grand, grand lecteur à l'époque, faut dire, j'étais un peu feignant. Et par contre, dans les cours de Michel Pialoux, la première année, ça devait être en 93, donc l'année où sort La misère du monde, et l'année où vient de sortir Le travail à côté de Florence Weber. Et donc ce sont deux ouvrages que du coup Pialoux nous a enseignés, et que par contre-coup j'ai lu. Voilà, ce sont deux ouvrages qui, en gros, veulent donner la parole au peuple, pas dans une démarche populiste de donner la parole au peuple, mais de comprendre. C'est la postface de Bourdieu à La misère du monde, comprendre. Et pour ne pas parler que de La misère du monde, il y a aussi donc l'ouvrage de Florence Weber, Le travail à côté. Qu'est-ce que c'est que le travail à côté ? Elle, au départ, quand elle fait sa thèse, elle se pose la question, qu'est-ce que font les ouvriers en dehors de l'usine ? Et elle se rend compte, elle enquête dans un petit bourg industriel, que les ouvriers, en fait, ils passent leur temps à faire autre chose, à travailler, mais pas dans une relation salariale. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire du bois, ils vont aller faire, donc elle enquête beaucoup les jardins potagers. Et donc, c'est cette idée de continuer, de faire quelque chose pour soi. Et c'est ça que je trouve très important, c'est l'idée de... je suis intellectuel, donc j'appartiens au monde des dominants. Des amis qui sont élus locaux, etc., qui sont sortis dans la vie et qui sont plutôt dans les positions de pouvoir. Et donc j'appartiens à ce milieu-là. Et donc du coup, pour moi, c'est toujours une force de rappel que de se penser, de continuer à travailler auprès des membres des classes populaires pour se dire comment ils le vivent, ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à n'importe quel phénomène, quoi ? Comment eux le vivent ? Parce que eux ne le vivent pas de manière intellectualisée, pensée, ça va beaucoup, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas intellectualiser à leur manière ni penser ce qu'ils sont en train de vivre ou ce qu'ils vont voir, mais ils ont des ressorts explicatifs, des ressorts de compréhension qui ne sont pas les mêmes que les miens. Il faut absolument en rendre compte, sinon on reste dans une société où on entérine les formes d'inégalité.
Dans tes travaux de recherche, tu t'appliques à démonter les mécanismes pour comprendre différents aspects, ceux du monde rural, de la classe populaire. Aujourd'hui, Nicolas, quel prisme souhaites-tu, en tout cas aimerais-tu prendre pour analyser ces axes ?
Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse depuis quelques temps, en fait, c'est la question environnementale. Alors je la prends par un petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que je m'intéresse à la coupe de bois communal, ce qu'on appelle les affouages. Alors c'est très inégalement réparti en France, c'est surtout dans le Grand Est, pas au sens de la région, mais en gros le Grand Est, mais aussi Bourgogne-Franche-Comté, etc. Il y a beaucoup de forêts, donc c'est une pratique très ancrée. Alors on le retrouve aussi ailleurs dans d'autres régions, mais c'est pas forcément aussi développé. Et c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup parce que je pense pouvoir y appliquer ce que je sais faire, c'est-à-dire une analyse des classes populaires, mais pas seulement, une analyse des appartenances, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'individu, on est un être social ? C'est l'ensemble des liens qu'on a autour de nous, nos parents, notre compagne, notre compagnon, les amis d'enfance qu'on a gardés ou pas, ceux qu'on a au quotidien, nos voisins, le quartier dans lequel on habite, le village dans lequel on habite, etc. C'est tout ça qui fait l'être social que l'on est. Et donc c'est cette sociologie des appartenances que j'ai appris, que j'essaie d'appliquer, que je voudrais appliquer à la question environnementale, parce qu'il me semble que, justement, c'est une manière, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que une des questions que mettent dans l'espace public les gilets jaunes quand ils interviennent, c'est celle de ils sont mis au banc de la société parce qu'ils utilisent la voiture. Ils sont surconsommateurs et donc on voudrait les taxer, etc. Et là, il y a une révolte incroyable, parce que bah oui, la voiture, oui, mais quand on vit à la campagne, si on n'a pas le permis, on n'a pas de boulot, si on n'a pas de bagnole en état de fonctionner, on est complètement isolé. Donc il faut absolument avoir une voiture. Et donc le fait, en plus, dans une période où les services publics à la campagne ne cessent d'être les services publics, mais pas seulement, les commerces, etc., il y a toute une reconfiguration de l'ensemble de l'encadrement économique et public de la campagne, qui n'est pas forcément visible depuis Paris ou depuis les métropoles, mais qui forge un vécu, qui est quelque chose de dur, quoi. Que quand il faut un collègue Benoît Coquart qui enquêtait pendant les Gilets jaunes, qui rencontre d'une jeune femme qui est mère célibataire et qui, pour aller faire les courses, il faut faire 30 bornes pour aller dans ce bled-là, pour emmener les enfants garder ou faut aller les petits, il faut les faire garder par une nounou dans le village d'à côté, pour aller au collège, il faut encore faire 20 bornes dans l'autre sens, donc ils sont tout le temps en bagnole. Et en plus, on leur annonce qu'on va taxer le carburant. Non, c'est pas possible. Ils ont déjà du mal à joindre les deux bouts. C'est pas possible. Et donc, du coup, il y a un rapport à la. Et ce qui veut pas dire qu'ils ont un rapport inconscient à l'environnement. C'est justement ce qu'ils ont très justement, ce que les Gilets jaunes ont très justement mis en avant. C'est qu'il y a une autre forme de rapport à la nature, à l'environnement, plus globalement. Voilà. Et moi, donc, j'essaie de commencer à enquêter. Donc, c'est encore les débuts de l'enquête, surtout en période de bazar, confinement, coronavirus, etc. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que dans le rapport à la forêt, l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a des rapports très différenciés à la forêt, quoi. Voilà, c'est à la forêt en tant qu'espace de loisirs ou en tant qu'espace productif, mais pas productif comme le font les forestiers ou les agriculteurs par rapport à l'espace naturel, mais en tant qu'espace productif pour faire du bois parce que ça coûte pas cher. Les affouages, ça dépend des régions. Dans certaines régions, les Vosges, ça peut être très cher, mais en règle générale, ça coûte beaucoup moins cher de faire son bois. Et puis, justement, c'est faire son bois. Et quand on est dans le monde ouvrier, on est du côté du faire. Et là, on le fait pour soi, comme l'a étudié Florence Weber par rapport au potager. On fait son bois. L'expression est très signifiante. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea.
tant que chercheur, que là, c'est à hauteur d'homme que tu fais ta place. Comment est-ce que tu opères la distance?
Alors, le premier élément de réponse, c'est que déjà, il faut arriver à rompre la distance. La distance, elle est là d'emblée.
Nicolas Renaï.
Elle est là d'emblée. On l'a dit tout à l'heure par rapport à mon expérience scolaire et mes copains d'enfance. Donc le premier truc, c'est déjà d'arriver à créer une affinité, une forme de familiarité. Et donc le truc que j'ai appris à faire dans mon apprentissage de sociologue, c'est l'empathie. C'est l'empathie, c'est-à-dire essayer de comprendre les gens, quels qu'ils soient, qui votent FN ou qu'ils soient considérés par des beaufs, par d'autres, peu importe, peu m'en importe. L'idée, c'est d'aller vers eux pour comprendre le sens qu'ils donnent à leur vie et essayer, si possible, aussi de les observer dans leur pratique quotidienne. Après, la distance, c'est avoir conscience du fait qu'on ne sera jamais leur égaux. Il ne faut pas leur donner de faux espoirs. C'est ça qui est super important. C'est-à-dire que, et ça, je l'ai appris sur le tas, en faisant, chemin faisant. Je pense que dans mon expérience d'enquêteur, j'ai pu donner de faux espoirs à certains. Et c'était mon inexpérience qui a fait ça. Et en fait, il faut prendre la relation d'enquête pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle peut être familière, essayer de trouver une affinité. Certains des enquêtés que j'ai pu avoir dans ma carrière sont devenus des amis, comme Sébastien. Mais l'idée, c'est de ne pas donner de fausses illusions sur le fait que, grâce à moi, ils vont s'en sortir. Ils ne s'en sortiront pas, ils resteront dans leur position. Simplement, moi, ils m'apportent beaucoup, parce qu'ils me donnent à voir ce qu'ils sont. Et donc, moi, j'essaie de leur rendre. C'est-à-dire, ça va être des petits coups de main sur faire un CV, des trucs que je sais faire, quoi, voilà, ou rédiger un courrier, voilà, ce genre de choses. Mais c'est surtout les ouvrir à leur mesure au monde auquel j'appartiens. Voilà, ça va être un conseil de DVD à regarder, un conseil de bouquin pour les gens qui lisent, ça va être voilà, des petites choses qui font que essayer de faire du donnant-donnant, quoi. De pas être dans une relation, faire avec la relation inégalitaire, mais faire en sorte qu'il y ait un vrai échange.
Aujourd'hui, Nicolas, quelle est ta vision de l'intellectuel? Comment tu travailles à réévaluer ta place en tant que tel?
Wow, quelle question. Alors spontanément, je dirais que la première chose à faire, c'est de l'assumer, donc de ne pas être dupe soi-même, ni de rendre les gens dupes. Quand quelqu'un qui n'y connaît rien me demande ce que c'est que la sociologie et le travail de sociologue, je compare souvent au métier d'historien. C'est-à-dire que le travail du métier d'historien, c'est de raconter les sociétés passées, de raconter comment ça fonctionnait, en essayant d'être au plus près. J'aime beaucoup la micro-histoire, le fait d'être l'histoire au ras du sol, etc. Au plus près des petites histoires qui font la grande histoire. Parce que c'est une manière, pour moi, de rendre le savoir le plus démocratique qu'il puisse être. Et c'est ce que j'essaye de faire grâce à l'ethnographie, qui est cette méthode où on essaie de passer du temps beaucoup avec les personnes que l'on rencontre, pour rendre compte de leur vécu, de leurs aspirations, de leurs espoirs, de leurs déceptions, etc. Et pour moi, le but de l'intellectuel, c'est de produire du savoir, mais de produire un savoir qui soit accessible au plus grand nombre. Alors évidemment, les ouvriers que j'ai pu enquêter, il y en a peu qui m'ont lu, surtout chez les garçons. En fait, c'est beaucoup les filles qui m'ont lu. Mais Sébastien, par exemple, qui a fini par me lire, pour lui, à un moment donné, quand il a engagé une démarche d'abstinence alcoolique, en fait, il a relu « Les gars du coin », ouvrage dans lequel il apparaît beaucoup, sous le prénom de Sylvain. Donc il m'appelle, il me dit « J'ai relu ton bouquin, il faut que je te vois, viens avec ton magnéto ». Pour une fois que c'est dans ce sens-là que ça marche, évidemment, j'accours, je vais le voir. Et en gros, ce qu'il voulait me dire, c'était me critiquer, oser me critiquer, sur mon registre à moi, sous l'angle « mais l'alcool, en fait, c'est omniprésent dans les gars du coin, mais t'en parles jamais ». Et il avait raison. Mais simplement, j'avais tellement de scrupules, déjà, à raconter la vie de gens qui m'avaient rien demandé, que j'allais pas, en plus, mettre la focale sur un truc qui est hyper stigmatisant, quoi. Parce que autant l'alcoolisme mondain est caché et valorisé dans les milieux mondains, etc., autant l'alcoolisme populaire, voilà, c'est le beauf de Cabu, quoi. C'est terrible, ces images qui peuvent... Donc je voulais pas en rajouter, quoi. Et c'est juste, c'est Sylvain qui m'a très justement mis le doigt là-dessus, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a renoué notre relation en refaisant un travail sur... Et là, en gros, il s'est servi de moi comme porte-parole. Et je lui en suis très redevable, parce qu'il avait enfin compris quel était le sens de mon boulot. Et il y a des moments, donc on a passé une semaine fantastique, où il allait bosser la journée, et puis le soir on faisait des entretiens, et le lendemain, pendant qu'il repartait, moi je retranscrivais, et puis et en fin de semaine, il a pas été bosser, et je lui ai fait lire ce que j'avais fait. Et là, c'est un des plus beaux moments de ma vie de sociologue, quoi. C'est-à-dire qu'il était très ému quand je parlais de sa relation à ses filles, du changement qu'il avait opéré, du fait qu'il n'avait pas vu les grands grandir, les deux aînés, quoi, le garçon et la fille, et que du coup, il essaie de rattraper le temps avec parce qu'il y a une forte conscience de la fugacité du temps, les choses passent très vite, quoi. Et puis en même temps, quand il parlait du travail dans le bâtiment et de la violence des rapports sociaux qu'il peut y avoir, il tapait sur la paille, il disait mais ça, attends, je vais en te raconter une autre, faut que les gens le sachent, quoi. Voilà, donc c'était vraiment un moment extraordinaire qu'on a vécu tous les deux, quoi. C'était vraiment très chouette. Et là, pour le coup, le travail intellectuel, il a pris tout son sens. Et voilà, c'est répondre de manière simple à ta question. Je pense que pour moi, alors sûrement autour de définition du travail intellectuel que l'intellectuel, mais pour moi, c'est l'idée de, voilà, de rendre accessible un savoir que j'ai accumulé sur des petites choses, des petits événements, des petites gens, des petites... voilà, pour en rendre compte, parce que c'est même au-delà de la politique, c'est-à-dire que le but, évidemment, c'est une partie c'est d'avoir une petite influence sur le monde politique en disant, attendez, quand vous prenez des décisions, pensez que tout le monde ne raisonne pas comme vous. Qu'il y a d'autres... aujourd'hui, les classes populaires ne sont pas représentées politiquement. Dans le bouquin « Mépris de classe », il y a un travail d'Éric Darras sur Philippe Poutou et sa réception par les journalistes. Philippe Poutou, c'est terrible, le mépris de classe qu'il a vécu. Et c'est le seul candidat à la présidentielle ouvrier qui ait jamais eu sous la 5e en France, quoi. Donc voilà, les classes populaires, il n'y a plus de députés qui sont ouvriers, etc. Donc il y a un vrai problème de représentation politique pour moi. Alors en tant que citoyen, c'est le sens de mon travail sociologique. D'arriver à essayer de participer à combler ce vide, si tant est qu'il soit, que ce soit possible. Mais après, au-delà, je pense que c'est... Il y a beaucoup de gens qui m'ont lu, qui ont lu Les Gars du Coin, qui les retours que j'avais, c'est... en fait, c'est des gens qui me ressemblaient, c'est-à-dire qui avaient grandi à la campagne, qui étaient bons à l'école et qui ont quitté. Et en fait, le bouquin leur a permis de comprendre le milieu qu'ils avaient côtoyé enfant et qui, comme moi, ils n'avaient pas très bien compris, quoi. Avec qui ils avaient pu être en conflit, ou du moins ou à distance, quoi. Et là, il y avait une compréhension. Et voilà, quand quelqu'un me fait ce retour-là, que je l'ai aidé à comprendre ses origines et pourquoi de lui il a continué, ou elle a continué à faire des études et pas les copains-copines de l'enfance, voilà, ça a marché, le travail a payé.
Moi, je dis le problème pour moi, c'est que j'ai foutu le code chez mes parents pour me sortir d'un truc. Et puis ce truc, j'y retombe jusqu'au cou, quoi. Qu'est-ce qu'on attend ? On ne sait même plus ce qu'on attend.
Ce sont des petites histoires de gens ordinaires qui se révèlent être très extraordinaires. Ces gens, quand on les regarde et quand on les entend comme il faut, je crois, les entendre, ont des aventures tout à fait extraordinaires autour de toutes petites choses.
En tant que penseur ?
Non, dans toute honnêteté, non. Je suis pas quelqu'un. J'ai toujours été mal à l'aise avec le militantisme. Je suis pas un militant. J'ai pas de savoir-faire. J'ai pas d'héritage. J'ai pas construit de savoir-faire militant. Donc j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le sont, mais c'est vraiment quelque chose que je sais pas faire. Et c'est pas comme ça que je pense mon travail. Mon travail, c'est vraiment c'est de la science dans le sens où c'est de la science sociale dans le sens où, comme les historiens, c'est accumuler du savoir. C'est accumuler, ou comme les anthropologues, enfin, toutes les disciplines de sciences sociales, quoi. C'est accumuler du savoir et surtout en rendre compte, le diffuser. Et faire ça de manière rigoureuse. Plus on est rigoureux dans son travail, et plus on va trouver le moyen de mieux le diffuser, en fait. De mieux savoir comment dire les choses de manière la plus simple et compréhensible possible, de pas trop jargonner, etc. Je pense que c'est ça Alors évidemment, après, qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que le militantisme, mais voilà, il n'y a pas de militantisme dans mon travail. Par contre, je suis très attentif quand je rencontre des militants à faire en sorte d'établir un dialogue avec eux, et quand ce sont des enquêtés, des gens que je vais à rendre compte de la, comme je le fais pour n'importe qui, quoi, de rendre compte de la, comme un patron, enfin peu importe, du sens social qu'ils donnent à leur existence dans le monde dans lequel ils vivent.
Dans ton parcours de sociologue et tes axes de recherche, tu travailles sur la question même des sciences sociales, leur histoire, leur pratique. Aujourd'hui, en quoi ce travail collectif que représente l'ouvrage Mépris de classe peut constituer un apport à la fois intellectuel et politique aux sciences sociales, et où est-ce que toi, personnellement, tu l'inscris ?
Alors, l'idée, c'est d'une part de ne pas tout le temps être autoréférencé en sociologie. C'est-à-dire que prendre le mépris de classe au sérieux et en faire un objet d'analyse, c'est ne pas prendre ceux qui utilisent, donc les militants, les politiques, etc., qui utilisent ce vocable, les prendre au sérieux, quoi. Essayer d'apporter notre contribution collective et essayer de leur rendre l'appareil, quoi. C'est-à-dire de, ben voilà, nous, on a travaillé un peu sur la question et on se rend compte qu'un des résultats du collectif, c'est de dire qu'en fait, le mépris de classe, ça renvoie, ce qu'on a dit au début de l'interview, ça renvoie à l'affect, à ce qu'on est profondément en tant qu'être social, et à la place que l'on a, ou que l'on refuse, ou que l'on dénie. Voilà, donc alors ça peut armer la critique, mais c'est pas le seul but. Le but, pour moi, il est d'abord intellectuel, c'est-à-dire de voilà, c'est une expression qui circule dans l'espace public. Qu'est-ce qu'on a à en dire? Donc on espère qu'au final, on arrive à en dire quelque chose d'intéressant. Et le but, c'est donc, il est partiellement politique, c'est-à-dire de ben voilà, d'armer la critique. C'est une des fonctions des sciences sociales, mais c'est aussi plus globalement un but de connaissance sociologique sur le monde social, quoi. C'est pas qu'un bouquin pour les militants.
En guise de conclusion, vous citez notamment Pierre Bourdieu, « Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre ». Donc il y a donc cette idée de se préserver des effets du mépris de classe, et donc de ne pas mépriser le méprisant. C'est aussi comme ça qu'on le combat ?
Bien sûr, et alors pour la petite histoire, c'est une paraphrase que Bourdieu prend à Spinoza. Effectivement, la leçon que je retire de ce travail, qui est un travail collectif qu'on a mené avec Pierre-Emmanuel depuis 2015, mais qui est en fait quelque chose qui... Tous les deux ont tourné autour du pot, quoi, dans leurs recherches respectives sur ces questions-là. Parce qu'en fait, on se questionne beaucoup sur la manière dont on fait enquête. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le sens de notre travail? Comment on en rend compte, etc. Et donc, effectivement, le mépris de classe, en fait, c'est une des conclusions aussi de ce travail. C'est quelque chose qui est structurel. C'est-à-dire que dans les sociétés inégalitaires, il est forcément là, surtout quand les choses dérapent. Et en ce moment, il y a pas mal de choses qui dérapent. Du coup, c'est structurel. C'est-à-dire que comprendre, c'est ne pas mépriser les méprisants, comme le dit Claude Grignon dans le premier texte du bouquin. Parce que s'ils méprisent, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Alors ça peut être provocateur de dire ça, parce que dans la réception, ce ne sont pas de bonnes raisons. Quand on le reçoit, ce mépris de classe, ce ne sont évidemment pas de bonnes raisons. Mais si on comprend pourquoi, dans certaines situations, quelqu'un qui est dominant dans un rapport social va en venir au mépris de classe, on a peut-être des chances d'arriver à soit relativiser, soit à faire autrement, quoi. Il y a d'autres manières de faire. Même en entérinant le fait qu'on est dans une société inégalitaire, il y a d'autres manières d'affirmer la relation, de faire en sorte qu'un subalterne obéisse au travail, etc., quoi. Merci beaucoup pour cette occasion. C'était très plaisant et très riche. Tu m'as un peu bousculé, hein.
Désolé, mais merci. C'était Nicolas Renaï rencontré dans le cadre de la sortie de Mépris de classe, l'exercer, le ressentir, y faire face, paru aux éditions du Croquant. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur alternantefm.net. Merci de votre écoute et à bientôt sur Alternante.